franceinter.fr.
Quand la souris de laboratoire rencontre la souris sauvage, les chercheurs se rendent compte qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre.
Sur le chemin du retour, le rat des champs repensa à son expérience dans la ville.
Ma maison est vraiment le meilleur et le plus sûr endroit sur Terre. Ah, rien ne vaut la bonne odeur du compost.
Une étude parue dans la revue Cell met un sacré coup de pied dans le monde de la recherche en santé basée justement sur la souris, puisque les chercheurs montrent que les espèces de souris utilisées en laboratoire, et particulièrement leur microbiote intestinal, ne sont pas du tout représentatives d'une vie remplie de microbes et de germes. Axel, on compare souris de labo et souris des champs avec notre invité.
Oui, on en discute avec le biologiste cellulaire Hervé Blottière. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes spécialiste de la relation microbiote hôte, directeur de recherche à l'INRA, à l'Institut Michaelis. Alors, c'est quoi le problème de la souris de laboratoire, en fait ?
Eh bien, la souris de laboratoire, en fait, c'est des animaux qu'on maintient dans des conditions d'hygiène importantes et qui ont un microbiote qui est peu développé. Et donc, on va en tirer des conclusions qui sont peut-être loin de la vraie vie.
Alors là, le protocole utilisé par ces chercheurs américains pour arriver à cette démonstration est assez original. Ils ont d'abord couru après beaucoup de souris. Hein.
Exactement.
Sauvages.
Oui. Des souris sauvages. Ils sont allés attraper 800 souris différentes dans la région de Washington.
Super comme boulot, ouais.
Voilà. Ils ont également récupéré des souris qui venaient de différents pays du monde, en particulier de Russie et puis de Chine. Mmh. Et puis, en fait, ils ont, dans un premier temps, fait une caractérisation du génome de ces bactéries, de ces souris, pardon,
oui.
pour savoir est-ce qu'elles ressemblent à nos souris de laboratoire. Et puis, dans un deuxième temps, eh bien, ils ont comparé le microbiote intestinal de ces souris avec celui de nos souris de laboratoire. Et ils ont vu que c'était très, très différent.
Et différent en termes de quoi, alors ?
En termes de composition et donc la diversité, la composition en bactéries surtout d'ailleurs, est très très différent de nos souris de laboratoire.
Et ça, c'est un vrai problème d'avoir des microbiotes différents sur ces souris ?
Eh bien, on va dire que l'enseignement de ce travail en tout cas, c'est que nos souris de laboratoire ont sans doute un système immunitaire un peu immature. Et donc, lorsqu'on va tester des pathologies de type infection virale ou cancer, eh bien, on va avoir des résultats qui vont être très différents de ce qui se passe chez la vraie souris de dehors, de la nature.
Là, justement, les résultats sont très impressionnants, puisque je crois que c'est près de 90% d'infections à la grippe en moins pour les souris qui sont sauvages, c'est ça, hein ?
Alors, c'est pas exactement ça. Donc, ils ont pris le microbiote des souris sauvages
oui.
et les ont mis chez nos souris de laboratoire qui étaient stériles, donc sans germes.
Mmh.
Et donc, ils ont développé des souris de laboratoire avec un microbiote de souris sauvage.
Ah, donc, ça va un peu plus loin.
Voilà. Et puis ensuite, donc ils ont testé des doses d'un virus de la grippe qui marche bien chez la souris. Et ils ont vu que nos souris de laboratoire ordinaires mouraient à 90% des cas,
ouais.
alors que celles qui avaient reçu le microbiote des souris sauvages, eh bien, à peu près 10% seulement mouraient.
Alors, les souris de laboratoire sont vraiment les mêmes partout dans le monde ?
Alors, il y a différentes souches de souris et différentes sociétés qui les produisent. Et effectivement, il y a des différences d'une société d'élevage à l'autre.
Donc, Hervé Blottière, ça pose problème aujourd'hui réellement de prendre ces souris de laboratoire pour modèle, parce que justement, il y a trop d'hygiène autour de ces animaux ?
Bon, je dirais que il faut être prudent quand on veut extrapoler de la souris à l'homme.
Mmh.
Quand on regarde le microbiote intestinal de la souris de laboratoire là, et qu'on compare avec le microbiote intestinal humain, eh bien, on a seulement 4% des gènes en commun.
Ah, c'est pas beaucoup ?
Donc c'est pas beaucoup, donc ça veut dire qu'il faut juste utiliser ça comme un modèle. C'est intéressant parce qu'on peut manipuler beaucoup de choses, mais c'est pas la vraie vie, c'est pas l'homme.
Est-ce qu'on pourrait pas améliorer ce modèle ? Est-ce qu'on pourrait pas fournir un bon microbiote à ces souris en laboratoire ?
Alors nous, ce que l'on fait maintenant, c'est d'utiliser du microbiote humain que l'on va mettre chez nos souris de laboratoire qui sont stériles.
Mmh.
Et donc on va avoir des souris entre guillemets, humanisés par rapport à leur microbiote.
Et ça c'est représentatif plus selon vous de l'être humain et ça permet de faire de meilleures recherches.
Disons que ça permet d'investiguer de façon un peu plus précise le microbiote intestinal humain et surtout de montrer le rôle contributeur dans certaines pathologies.
Sauf que Hervé Blottière, quand on sait que la grande majorité des études sont menées justement sur la souris, est-ce que ça biaise pas tous les résultats dont on dispose aujourd'hui?
Eh bien non, ça biaise pas, ça donne des pistes qu'il faut aller vérifier chez l'homme, dans la vraie vie, quoi.
Oui, enfin, d'après ce que vous nous dites, quand même, il faut être très précautionneux dans les conclusions qu'on peut tirer des études, alors.
Ah, mais de toute façon, travailler sur des souris, guérir des souris de pathologies qu'elles n'avaient pas et qu'on leur a induites, c'est facile. Quand il s'agit de passer à l'homme, et là, c'est plus difficile. Mais c'est une première étape.
Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin dans la comparaison largement avec l'homme en disant que les habitants des campagnes ont une meilleure immunité que ceux des villes ou alors ceux qui ont trop d'hygiène?
Alors ça, c'est une très bonne question. Les épidémiologistes nous disent que, par exemple, des enfants qui sont élevés en milieu rural, en ferme en particulier, en présence d'animaux et donc dans une hygiène qui est peut-être un petit peu moins drastique que ce qu'on a dans les villes, eh bien, vont développer moins d'allergies, d'asthme, de pathologies chroniques de ce genre. Mmh. Donc oui, clairement, on se retrouve avec cette hypothèse qui est, ce qu'on appelle l'hypothèse hygiéniste, qui est que l'exposition à une petite diversité de microbiotes ou plus faible diversité bactérienne ou microbiologique dans les premiers temps de la vie, vont faire que le système immunitaire va être moins mature. Et donc, les gens, les enfants vont être plus susceptibles à développer des pathologies. Et donc, c'est ce qui illustre d'ailleurs ce travail chez la souris, finalement, quelque part.
Hein. Thierry Robert qui veut réagir autour de ce micro.
Non, mais en fait, dans le film, là, vous verrez qu'il y a un équipage de rats qui vit grâce à un bioréacteur à spiruline dans le programme Mélissa, mené par l'ESA à Barcelone.
Voilà, un bioréacteur à spiruline, ça veut dire quoi en traduction humaine?
En traduction humaine, c'est donc une cyanobactérie qui leur fournit de l'oxygène pour vivre. Ils sont dans un circuit fermé et elles captent en retour leur CO2.
Pour terminer, Hervé Blottière, on se rend quand même bien compte avec cette étude que le microbiote est capital dans l'immunité, dans la protection contre les allergies et même le cancer aussi là dans cette étude.
Oui, tout à fait. Donc, par rapport au cancer, là aussi, ils ont montré dans un modèle classique de cancérogénèse chez la souris, que suivant le microbiote, eh bien, la souris développait peu ou développait beaucoup de tumeurs et des plus grosses. Évidemment, la souris de laboratoire qui avait un microbiote pauvre, on va dire, ou pas très diversifié, sont celles qui font le plus de tumeurs. Donc si on regarde ce qu'il y a actuellement comme travaux à la fois chez l'homme et chez la souris dans les cancers, ben on peut se dire que là aussi, le microbiote est un facteur contributeur dans ces pathologies.
Merci beaucoup pour cet éclairage, Hervé Blottière.
De rien.
Bonne journée à vous. Vous êtes donc spécialiste des relations microbiote hôte à l'INRA. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité scientifique, vers de nouveaux panneaux solaires parfaitement transparents. Une équipe de chercheurs du Michigan montre aujourd'hui qu'en récoltant seulement la lumière invisible du soleil, c'est-à-dire l'ultraviolet et l'infrarouge, on pourrait mettre au point des panneaux solaires transparents. Ce type de technologie encore à l'essai est moins efficace que les panneaux solaires classiques, permettrait de fabriquer par exemple des fenêtres, des immeubles, des voitures ou même des téléphones récoltant directement l'énergie électrique via leurs vitres sans avoir besoin de modifier leur design en profondeur. Les prototypes sont à l'essai actuellement. Le squelette d'un vieil homme de Néandertal, sourd et infirme, permet d'imaginer la solidarité chez Néandertal, mort à l'âge de 40 ans, selon les analyses. Ce Néandertalien n'aurait pu survivre sans les autres. En effet, son squelette présente de nombreuses traces d'infirmité, une ouïe certainement nulle et de nombreuses blessures anciennes et handicapantes. Un tel individu livré à l'humaine n'aurait pas passé une semaine au milieu des carnivores, c'est ce qu'expliquent les chercheurs. Ce vieil homme a donc été assisté pendant de nombreuses années par ses proches. Une démonstration du soin que les Néandertaliens pouvaient s'apporter sur de longues périodes. Et puis les chiens sont de sacrés comédiens. Des chercheurs britanniques montrent aujourd'hui que nos compagnons ont tendance à faire plus de mimiques quand un humain les regarde. Plusieurs tests ont été menés sur 24 chiens qui leur maîtres ont apporté de la nourriture. Ils montrent que les expressions de la face et du corps sont très différentes et beaucoup plus nombreuses lorsque l'humain est en mesure de voir l'animal. Les chercheurs concluent que les expressions faciales ne sont pas seulement la manifestation inflexible et involontaire d'un état d'esprit, mais qu'elles sont seront bien destinés à l'observateur.